La ferme que j'avais sur Minglon était en bordure de rivière. Je devais avoir 3 km le long de la rivière. Et la première année, j'ai arrosé. Tout le monde, il fallait arroser. Les prairies ne poussaient pas si on n'arrosait pas. Et j'ai arrosé. Plutôt que d'adapter nos cultures et nos semences à la terre et au climat, on peut semer n'importe quoi, c'est-à-dire on se met du régras anglais ou n'importe quelle variété, de la fléole, de la fétuque, puis on arrose. C'est vrai qu'avec l'eau, tu peux faire pousser n'importe quoi. Hein. Il n'y a plus de notion de qualité de semence, d'adaptation à la terre, adaptation au climat. Tu peux faire pousser des choux-fleurs à 10 hein, si tu arroses bien. Et en réalité, c'était une erreur fondamentale. Et ça a commencé comme ça, la relation à la rivière. J'ai commencé à arroser, puis après, ça, dans le cheminement, je me suis dit, mais c'est stupide d'arroser, en plus, ça coûte une fortune. Et puis les infrastructures, j'ai même essayé de faire une retenue collinaire pour garder de l'eau. Enfin, je me suis fourvoyé dans le productivisme. Et petit à petit, je me suis dit, non, il faut travailler autrement. Il faut avoir une autre relation à l'eau. Et donc, je n'ai plus jamais puisé dans la rivière. C'est la première chose. Et du coup, plus puiser dans la Drôme, bah, c'est un challenge. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui irriguent, tu ne peux pas les empêcher d'irriguer parce qu'ils sont passés à des productions qui demandent de l'eau. Du maïs ou d'autres variétés, des régras, qui demandent beaucoup d'eau. Et en réalité, la première démarche, c'était de ne pas aller puiser dans la rivière. Et donc ça a été la première. Après, la rivière m'a surpris. Elle m'a fait un sale coup. Une année, c'était en 73, je crois, 74. Elle a débordé et elle m'a emporté à peu près 2 hectares de terrain, de terre agricole. Elle était tellement violente qu'elle m'a embarqué, 2 hectares de terre. Alors un paysan qui perd 2 hectares, ça te met les boules. Et quand elle déborde, il y a deux choses. La première chose, c'est les ravinements. Et la deuxième chose, c'est qu'elle monte. Sur des photos, sur une photo par exemple, qui doit être dans les archives départementales, la rivière est montée tellement haut, il a tellement plu, que la gare est inondée. Donc ça veut dire qu'à un moment, elle peut être furieuse ou... Furieuse, c'était carrément dramatique quand il n'y avait pas eu la plantation de pin noir sur le Diwa. Parce qu'à l'époque, il pleuvait comme aujourd'hui, mais peut-être un peu plus encore, et tout était raviné. Il n'y avait aucun arbre. Enfin, si tu prends les photos, les premières photos du Diwa de l'Office national des forêts, 1850-1860, toutes les montagnes du Diwa sont pelées, elles sont grises. Tu voyais l'os de toutes les montagnes. Et les paysans, à l'époque, pour des raisons très économiques, ils pâturaient en brebis ou en chèvre, et ils empêchaient toute repousse de quoi que ce soit. Le peu qu'il y avait, ils en utilisaient ou du bois de chauffe ou de la charpente, et donc il n'y avait pas de bois. Et donc, à un moment, l'Office national des forêts s'est dit, mais comment on va faire pour éviter que toutes ces terres arables, toute cette terre, ces alluvions, partent dans la rivière Drôme, arrivent dans le Rhône et comblent le port d'Aigues-Mortes en réalité. Et pourquoi Aigues-Mortes? Parce que c'est plus un port, parce que les alluvions du Diwa, de Beaurières, de la Bâtie des Fonds sont descendues à Aigues-Mortes et ont rempli l'estuaire du Rhône. Et donc toute la terre partait, toute la terre fichait le camp. Moi j'ai connu deux moments très divers, très différents. La première chose, c'est le réensauvagement, oui. Parce que les petites fermes qui étaient perchées un peu trop en altitude, les gens sont partis. D'ailleurs, tu peux les revoir, il y a des ruines souvent, tu vois des peupliers de loin. Tu te dis, ah, là, il y avait une ferme, tu y vas, tu es sûr que d'avoir une ruine à la base. On mettait des peupliers parce que souvent, ça pompait l'eau à un endroit, il y avait une source. Quand il y a un peuplier, il y avait une source. Et donc, il y a beaucoup de fermes qui ont été abandonnées, surtout sur le Diwa périphérique, sur les montagnes, sur les petites fermes de montagne. Donc, on a vu le réensauvagement arriver d'abord. Avant les animaux, on a vu arriver les buissons. On a vu arriver pas mal de pins qui sont venus naturellement hein, par les graines. Et puis, par les oiseaux. Les oiseaux sont des grands semeurs de graines partout. C'est eux qui font le principal job. Et puis, après, il y a des houx qui poussent. Il y a toutes sortes de variétés de plantes. Alors, est-ce que c'était positif ou négatif? Je pense, moi, que c'était très positif parce que c'était des terres très dures à travailler. Moi, j'ai plusieurs copains qui se sont renversés en tracteur et qui sont morts, hein, quand même. Donc, c'était plutôt positif de voir ce réensauvagement. Et puis après, sont revenus plein d'animaux. qui sont sur les ruisseaux, par exemple les écrevisses à pattes blanches, mais aussi la loutre qui est en train de remonter. Enfin, il y a plein d'animaux qui recolonisent les territoires. Je ne parlerai pas du loup, mais ça fait partie du job des animaux de revenir là où il y a de l'espace qui est sauvage. Et en même temps, en 70, 71, 72, 73, il y a eu le remembrement. Minglon en particulier, et puis les bonnes terres agricoles du fond de la vallée. Et le remembrement, ça a été la destruction des haies, la destruction des ruisseaux, la destruction des mares, la destruction des arbres dans les champs. Il fallait araser tout, que soit plat, pour faire passer les machines agricoles, pour regrouper les terres et tout. Et donc, du coup, ça a été bénéfique pour l'agriculture intensive, pour l'agriculture industrielle ou mécanisable. Et ça a été une catastrophe au niveau de la biodiversité et au niveau de la rétention de l'eau. Non, on était dans cette vision progressiste où le progrès, il faut des champs qui soient grands. On passait un temps fou à marche avant, marche arrière pour labourer. La moissonneuse passait pas, c'était galère, il fallait couper des branches des arbres pour faire passer la moissonneuse. Quand tu partais, il fallait faire 3 km pour faire un petit champ, alors tu passais un temps fou sur la route pour faire pas grand-chose. Et donc quand on nous a regroupés et tout, on s'est dit, bah ouais, c'est un bon plan, on a des parcelles qui font 5 hectares, tu laboures le matin, tu as fini le soir, tu sèmes le lendemain d'un même coup. Non, c'était vraiment une belle vision. Le problème, c'est qu'après, ces parcelles, elles ont été labourées et tassées, c'est que l'eau qui s'infiltrait dans les ruisseaux, qui s'infiltrait dans les rigoles, qui s'infiltrait autour des arbres, des noyers, il y avait beaucoup de noyers dans nos champs, qui s'infiltrait de partout, on pouvait toujours rouler dans les champs. Et après, ça faisait des sortes de mares et tu ne pouvais plus rentrer dans les champs. Ils étaient asphyxiés au niveau des sols, c'était terrible. Ça, c'était une des choses, donc la première chose, et puis tout a disparu. Du coup, comme il n'y avait plus de haies, il n'y avait plus d'oiseaux. Quand il n'y avait plus d'oiseaux, il y avait plein d'insectes, des ravageurs, il y avait plein de trucs qui bouffaient ce qu'on avait semé. Donc, ça a été totalement contre-productif, in fine. Pour l'agriculteur qui avait arrivé à gérer tant bien que mal les équilibres, ça a été une catastrophe. On est dans un système agricole catastrophique qui est en train de détruire les terres, mais de polluer les rivières, de polluer les ruisseaux. On a pris les choses complètement à l'envers, bien sûr, au niveau agricole. Et on a participé, j'ai participé à ça, parce qu'on n'était pas conscient à l'époque de la biodiversité comme aujourd'hui. On n'avait pas lu Morisot, on n'avait pas fait plein de choses, et on était naïfs. Mais surtout, on était dans cette vision du progrès. Plus de machines, plus d'investissements, plus d'engrais, plus de terres, on s'est agrandi et tout. Et en plus, les jeunes qui s'installaient, moi je me suis installé en 72, les jeunes qui s'installaient, ils voulaient faire presque mieux que les anciens parce que tu es regardé dans le monde agricole quand tu t'installes. Donc il fallait vraiment que tu fasses tout parfait. Et en définitive, on était très cons parce que nous aussi, on labourait jusqu'au bord de la rivière parce qu'on voulait faire voir qu'on était très très bon au niveau technique. Et en définitive, on avait absorbé le productivisme et le progrès par les écoles d'agriculture, les techniciens agricoles, les techniciens des coopératives. Et on s'est fait un peu avoir. La notion de préserver la biodiversité, elle est venue beaucoup plus tardivement. Tu sais, j'ai un copain qui était éleveur, qui est décédé il y a 2 ans. Et il m'a dit, tu sais, quand le loup est arrivé, un éleveur de brebis, quand le loup est arrivé, c'est la première fois que je descendais de mon tracteur. Descendais dans un champ, quoi. Tu rentres dans un champ, tu laboures ou tu sèmes et tu fais ton job, et tu repars à la ferme, tu repars à la maison. Et là, il a vu un loup dans une haie. Il est descendu du tracteur, il est rentré dans la haie, il est rentré dans la forêt pour voir où il se dirigeait, ce qui se faisait et tout. Il m'a dit, ça m'a chamboulé ma vision du monde. Parce qu'avant, j'étais un agriculteur et après, j'étais un paysan, un homme du pays et je m'intéressais à mon environnement. Il a fallu qu'il y ait un prédateur qui vienne autour de mes brebis pour que je retrouve cette sensibilité que j'avais voulu, que j'avais imaginé, il m'a vraiment dit ça, dans les années 70, et que j'avais perdu. Tu sais, tu perds le fil dans le productivisme agricole et tout. Tu es obligé de travailler. J'ai des copains paysans, ils travaillent 10 heures par jour. Et tu perds le fil de ce pourquoi tu as choisi la terre. ça lui a remis les pieds sur terre en disant « Mais j'habite un territoire formidable, je n'étais jamais rentré dans la forêt. » Et tu te rends compte le basculement quasiment, un basculement intellectuel, un basculement sensible, un basculement de la tête et du corps et du cœur. Il arrive et il dit « Mais j'avais choisi ça quand il s'est installé en 73-74. » J'avais choisi ça initialement. Je l'avais perdu dans mon cheminement. C'est cette relation au vivant qui est en train de, moi je trouve, de renaître. Mais moi j'ai subi la technostructure quand elle nous s'est imposée, comme le remembrement à Minglon. Mais en réalité, j'ai toujours eu cette sensibilité. Je me suis installé sur les fermes familiales, aux grandes dames de ma famille, parce qu'ils s'étaient arrachés de la terre, au grand bonheur de mes grands-parents qui me voyaient reprendre la ferme. Donc. Et là, moi, j'étais amoureux du territoire, amoureux de mes grands-parents, amoureux des anciens, amoureux des vaches. J'avais des vaches laitières. Hein. J'étais amoureux des vaches et amoureux de la rivière, des terres, de la prairie, des arbres fruitiers. Ma grand-mère et ma grand-tante qui m'ont élevé, elles étaient nées en 1870-1880, tu vois. Donc, c'était une génération qui est morte il y a 20 ans, 20 et quelques, 30 ans. Et donc, cette alliance avec les anciens, moi, je l'ai toujours cultivée. Je trouve qu'ils sont un peu, je mets des guillemets, un peu les peuples premiers de notre territoire, parce qu'ils ont connu l'agriculture avant la mécanisation. Donc, cette façon d'être dans les champs, à pied, de voir les haies, d'être attentifs.